Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Denis, comment ça va ?
Salut, ça va super, merci.
Mais écoute, merci à toi de te rendre dispo. Je sais que tu as un gros planning en ce moment. On est à quelques semaines là, des Coupes du Monde en plus.
On est à 2 semaines des championnats d'Europe et à quelques semaines du démarrage des Coupes du Monde. Ouais.
Ouais, donc merci beaucoup de te rendre dispo avant le début de la saison.
C'est un plaisir.
Et comme je te le disais, ouais, je suis hyper content d'être là aujourd'hui avec toi parce que bon, déjà on est un peu chez moi, mais aussi parce que tu vois, en écoutant ton histoire, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnu, tu vois, dans l'enfance, dans l'OM, dans l'entrepreneuriat aussi, d'avoir aussi toujours été numéro 2 de mes boîtes, tu vois, et d'avoir souvent été dans l'ombre un peu des numéro 1, et c'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec le temps, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses, en tout cas moi, qui m'ont parlé, donc ça m'inspire beaucoup et j'espère qu'aujourd'hui on fera un super épisode ensemble.
Eh ben écoute, ça dépend de toi.
C'est vrai, la balle est dans mon camp parce que toi, je sais que tu parles super bien et que tu as de belles choses à raconter. Comme je te le disais, il y a une tradition sur le podcast que je pose à tout le monde, Gauthier, Nouria, comme je te le disais, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est mon premier de sport, mais le souvenir qui me marque le plus, c'est le foot. Et ce n'est pas le foot n'importe où, c'est le foot dans mon quartier, à Marseille, à Mauropiane, où il y a une petite place qui formait un espèce de mini-stade de foot, en fait, où les voitures pouvaient se garer. Et avec un portail, le portail d'un de mes amis du quartier, et puis une cage naturelle, en fait, où à la fin, il y avait une espèce d'ouverture en béton où on pouvait marquer, c'était des petites cages. Et quand on sortait de l'école, moi, la condition chez moi, c'est s'il fait beau, t'as pas le droit d'être à la maison. Donc, du coup, bah, je sortais dans la rue. Tous les potes du quartier, on se rejoignait là-haut et tous les soirs, on jouait au foot une heure et demie jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Après, il fallait rentrer, tu vois. Et ce qui était dingue, c'est qu'on jouait avec les enfants de mon âge, mais avec les grands qui étaient au collège. Et quand il y avait leur grand frère qui arrivait, ils venaient jouer au foot avec nous aussi. Tu vois, c'était multi-génération. Et c'est quelque chose qui me marque. Et tu vois, quand tu me poses cette question, je me dis, bah, c'est ça en fait. J'ai très tôt joué au foot, j'ai fait du sport avec les gens qui habitaient autour de chez moi, quoi.
Ouais. Pour toi, c'est ça un peu le sport, quoi. C'est le quartier, la vie avec les copains et le moment où tu te retrouves un peu après la journée, quoi.
Je sais pas si c'est le sport. Si le sport, c'est ça. Mais pour moi, c'était du sport. Et en tout cas, c'est quand tu m'as posé cette question, j'ai pensé à ça parce que c'était très compétitif.
Très compétitif.
C'était déjà très compétitif. Même si c'était bon enfant, tu vois, il n'y avait jamais de bagarre ou quoi. C'était très compétitif. On se marchait dessus. Les garçons qui étaient plus grands, qui étaient au collège, nous, on était à l'école primaire, il fallait les bousculer pour leur prendre la balle. C'était la bagarre, quoi. On aimait le foot, on aimait ça et il fallait y aller.
Ouais. Et t'étais déjà assez, on va dire, ouais, t'as dit que c'était déjà compétitif, mais ça a participé un peu à ta construction, tu vois, d'athlète, avec le recul?
Ces petits moments, oui, mais pas que ça, en fait. C'est surtout l'environnement, je pense. On pourra peut-être en discuter un peu tout à l'heure, mais c'est peut-être lié aussi à l'environnement général qu'il y avait dans ce quartier, autour, et les gens que j'ai pu croiser dans ma vie qui ont fait que je me suis découvert un caractère de compétiteur. Mais on verra si on approfondit un peu la chose. Pour moi,
allons-y.
Je suis pas vraiment un compétiteur, je suis un survivant. Voilà. Et la compétition, me met face à une situation de danger où je dois réussir à survivre, en fait. Où je dois un peu, en quelque sorte, tuer pour ne pas être tué.
Quand tu dis survie, c'est par rapport au fait que c'était ton seul moyen de vivre, entre guillemets, ou d'exister en tant qu'homme ?
Non, quand j'étais minot, c'était juste de la défense. Je n'étais pas en danger de mort ou quoi que ce soit, mais c'est quelque part la survie de ton ego, la survie de comment tu te perçois, le fait que tu apprennes à t'affirmer, que tu apprennes à pas être celui sur qui on tape, en fait. Et ça, pour moi, c'est de la survie. Et c'est peut-être de là que vient mon côté compétiteur. Et après, il y a d'autres aspects. Enfin, compétiteur au sens où les gens le voient. Parce que pour moi, je ne suis pas un compétiteur.
Ça, tu ne te vois pas comme un compétiteur?
Non, mais je me vois comme un survivant. Dans tout ce que je fais, de toute façon, c'est ça. C'est plus... je dis compétiteur aux gens. Je dis que je suis compétiteur. Parce que, voilà, mais là, on est posé, on discute. Et en fait, je ne pense pas être un compétiteur. Tu vois, par exemple, on joue aux cartes, on joue... au jeu de société, j'en ai rien à faire de perdre, quoi. Ça me fait rien du tout. On joue au tennis, je m'en fous complet. Parce que c'est du loisir. Par contre, dans mon travail, dans la compétition, dans la vraie compétition à laquelle je participe, dans mon sport, là, c'est de la survie.
Tu penses à ça sur une ligne de départ ?
Je pense pas à ça, mais je suis dans cet état-là. Je sais que si je suis pas bon... c'est comme si je me faisais en quelque sorte tuer. Et j'ai pas d'autre choix que de répondre par l'agressivité, en fait. C'est violent, le sport de haut niveau, dans le sens où, en fait, il y en a qu'un qui peut gagner. Donc, si tu sors un peu du contexte et que tu mets ça dans un combat de rue, à la fin, il y en a un qui est par terre, quoi.
Ouais.
Et le sport, c'est ça. Sauf que c'est un exutoire, en fait. Tu respectes des règles, tu respectes l'arbitre, tu respectes ton adversaire. Et surtout, tu te fais pas mal. Tu te fais pas de mal. Non, mais c'est
bien
ça.
Sûr, ouais,
mais
sûr.
Conceptuellement, le sport, Il y a quelqu'un qui le disait bien. Il disait, en quelque sorte, pour gagner, il faut accepter de tuer l'autre, d'une certaine manière. Il faut être assez fort mentalement pour pouvoir regarder ton adversaire en disant « moi, je suis plus fort que toi ». Ce qui est très violent, en fait.
Bien sûr, ouais. Faut de l'ego, faut une certaine part d'agressivité.
Ouais.
Ouais.
Voilà. Et ça, je pense que moi, dans ma jeunesse, dans mon environnement, j'ai appris à survivre, en fait, plus qu'à être compétiteur. Et j'ai réussi à transformer cet état d'esprit de survivant en quelque chose qui est positif, en fait.
C'est dur d'être un gamin à Marseille, tu vois, dans des quartiers un peu, je vais pas dire un peu sensibles, tu vois, mais...
Non, mais moi
quartiers populaires, on va dire.
J'ai aucun souci pour parler d'où je viens. Je viens d'une petite colline qui est située entre les cités et entre le camp de Gitans, et les cités les plus populaires sur BFM TV de France, les plus dangereuses de France. Mais
ça pose le cadre quand même.
Mais par contre, sur cette colline-là, c'est que des petites maisons individuelles, ou des grandes maisons individuelles d'ailleurs. C'est que des gens, c'est pas des gens qui n'ont pas assez de moyens pour vivre dans ces maisons-là. C'est des gens, c'est un quartier populaire, des gens qui viennent souvent de Marseille, qui sont originaire de ce quartier-là, qui à l'origine est un quartier communiste. C'est l'Estac, c'est le berceau du communisme marseillais. Et tout ce qu'il y a autour, c'est venu après. Voilà. Donc moi, j'en discute souvent avec mon père. Je viens des quartiers nord de Marseille, mais je ne viens pas du ruisseau.
Ouais.
J'ai une famille qui est solide. J'ai un père qui était médecin. Une maman qui est pareil, elle, c'est une survivante, qui a eu des diplômes d'infirmière, qui a dirigé des maisons de retraite. Mes parents... Voilà, je pense que c'est la classe moyenne supérieure, mais pour des choix politiques et une volonté de nous éduquer dans un milieu multiculturel, nous ont fait grandir, moi et mon frère, dans les quartiers nord de Marseille. Pas dans n'importe quelle condition, mais entouré.
Ouais.
Et oui, c'est dur.
Tu le vois quand même. Quand t'es le gamin un peu en plus, un petit peu plus avantagé que les autres, tu vois. Moi, c'est marrant, je me reconnais pas mal là-dedans aussi, tu vois. Moi, j'ai grandi juste à côté d'une cité. À Montreuil, j'étais pas défavorisé, mais j'étais juste à côté, donc tu vois ce qui se passe. T'es le gamin blond aux yeux bleus, tu vois, et tu te prends quelques tatanes, tu vois. Et,
ouais, bien sûr. J'ai pas grandi dans cette. J'ai pas l'impression que. Comment dire? Pour moi, je faisais partie de deux. J'étais à l'école publique, on était tous mélangés.
Bien sûr.
Je me suis jamais posé la question, j'ai compris ça plus tard en fait. J'ai compris ça plus tard. Pour moi, c'était mes amis. On partageait tout, tu vois. Par exemple, j'ai la chance, moi, dans ce quartier, chez mes parents, on a une piscine. Tous les gamins, l'été, dès qu'on sortait de l'école et que la piscine elle était ouverte, ils venaient tous à la piscine, tu vois. Ouais. On en faisait profiter. Mais c'est aussi un état d'esprit de partage que mes parents m'ont inculqué, qui est fortement marqué chez eux. C'est des gens qui aiment qui aime faire profiter aux autres. Non, pas forcément, mais aussi de s'ouvrir et de faire le bien commun aussi. C'est un peu le bien commun avant, même si c'est à eux, c'est aussi le bien commun.
Et l'OM dans tout ça, c'est important.
L'OM, ça a été important, très important dans une partie de ma vie.
Parce que t'as commencé par le foot en plus. Ouais.
Voilà, j'ai commencé par le foot, donc bien sûr que ça a été très important dans une première partie de ma vie. Après, ça l'a été un peu moins. Quand j'ai commencé à faire du canoë de haut niveau, j'ai vite compris aussi le manque de moyens qu'on avait dans mon club et l'extravagance des moyens que l'OM pouvait avoir. Et voilà. Et maintenant, je suis plus raisonné. Je me rends compte aussi de l'importance que l'OM a à Marseille. Mon grand frère, il est restaurateur. Il vit aussi grâce aux bons résultats de l'équipe. Et c'est vrai. On ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui est hyper important. Ça fait vivre énormément de familles. L'OM, pas que des footballeurs. Hein.
Ah,
ça fait vivre... Il y a une grosse économie autour du stade. Mes beaux-parents ont un stade en face, un restaurant en face du stade.
Dans le club lui-même, il emploie beaucoup de gens.
Déjà, ouais. Oui, ouais. Bien sûr, mais au-delà de ça, ça fait vivre énormément de monde et il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faut pas non plus mettre en sourdine, et puis c'est un énorme exutoire pour la ville de Marseille. Si t'es déjà allé au stade, tu comprends que les gens ils se défoulent, quoi.
Il y a de l'énergie, ouais, il y a de l'énergie. Pour le coup, j'ai goûté un peu à toutes les couleurs niveau football, tu vois, j'ai supporté un peu. Je suis allé en tout cas dans tous les stades, je pense que je suis allé 10 fois au Parc des Princes et une petite dizaine de fois au Vélodrome aussi, tu vois. Moi j'ai grandi un peu avec cette double culture, pas facile à accepter pour les autres, mais c'est comme ça. Et ouais, s'il y a un endroit où il faut aller, c'est en France, je pense que c'est le Vélodrome. Quoi.
Ouais, il faut voir OM Paris.
Ouais, il faut le voir. Ouais. T'en as fait combien, toi, des OM Paris ?
J'en ai fait 2, je crois. 2 ou 3. Et tardif. Hein.
Tardif ?
Ouais, tardif.
Récemment, là ? Ces 10 dernières années ou...
Ah, j'ai fait Zlatan et Messi.
Ouais, c'est des moments qu'on se souvient, ouais. En tout cas, ouais, toute sa vie, ouais. Cool. Et ça a été une frustration jeune de ne pas faire du foot au haut niveau, tu vois.
Alors,
tu parlais de survie. De...
Ouais. Très franchement, ça a été un choix. C'est-à-dire que j'ai souvent cette discussion avec mon épouse. Elle me dit, est-ce que tu crois que tu aurais été fort dans un autre sport ? Et alors, je suis très prétentieux, je l'assume, tant pis. Mais je pense que si j'avais continué à faire du foot, je pense que j'aurais pu faire du foot à haut niveau. Je ne sais pas à quel niveau, mais à haut niveau, j'en suis sûr. Donc, ça a été un choix.
Quel poste ?
Tout le monde plutôt attaquant à droite.
Le buteur.
Ouais.
Okay.
Ça a été un choix, je pense, de cœur, parce que je suis vraiment tombé amoureux du canoë, et j'ai toujours aimé l'eau, en fait. Donc, et alors, c'est un paradoxe, parce que, tu vois, on va revenir sur Marseille. Moi, j'aime l'eau, parce que, encore une fois, il y avait une piscine chez moi, mais à Marseille, dans les quartiers nord, pour aller à la plage, il faut prendre le bus et il faut aller dans les quartiers sud.
Il n'y a
pas d'accès à l'eau, c'est le port autonome, en fait. Donc, bon, nous, on y allait, mais c'est interdit. On allait se baigner à la Formule 10, tu vois, ou sur le port autonome. Déjà, c'est dégueulasse. C'est crade, voilà. mais c'est surtout interdit, en fait. T'as pas le droit d'y être, et alors,
c'est
du
dangereux.
Coup, je sais pas si c'est dangereux, c'est interdit.
Tu te souviens des premières émotions que t'as eues la première fois que t'es allé dans un canoë?
Ouais,
tu vois, t'es adolescent et tout, mais
j'avais 12 ans. Ouais. J'avais 12 ans, j'étais chez ma tante à Orléans. Mon cousin, donc son fils, était en équipe de France junior ou jeune de canoë. Eux, ils font du canoë depuis... c'était une famille de kayakistes, voilà. C'est toujours, d'ailleurs. Et ma mère, pas du tout. En fait, c'était le mari de ma tante qui était issu du kayak. Ils s'y sont mis, donc ses enfants en faisaient. Mon cousin était en équipe de France. J'étais en vacances chez eux. Et je l'ai gonflé, je crois, avec le foot. Parce que je parlais que de foot. Je faisais que jouer au foot, taper à la balle contre le mur tout l'été. Et mon cousin me dit, viens avec nous cet après-midi, on va mettre des portes de slalom sur notre lieu d'entraînement, là. Et toi, je te mets dans le canoë. Et à un moment donné, il me dit, si t'arrives à traverser la rivière sans tomber à l'eau, je te le donne, le canoë. C'est un beau truc en carbone et tout.
Ah, okay.
Et je raconte souvent cette histoire. C'est vrai que c'est la vérité. Et j'ai pas réussi.
Ouais.
Et je me suis foutu à l'eau, j'ai nagé. Et en fait, j'ai adoré ça. Parce que en fait, la condition était parfaite. Il faisait beau. L'eau était chaude. Et puis après, j'ai demandé à ma tante où est-ce que je peux m'entraîner à Marseille. Elle m'a dit, il y a un des meilleurs clubs de France. Avec Myriam Jérusalemi, qui était à l'époque, qui avait été médaillée aux Jeux d'Atlanta, marseillaise, et son père, Alberto Belém, donc Bébert, qui avait créé le club. Et donc, je suis allé là-bas. Et je suis arrivé et j'ai dit, moi, je vais faire du canoë, comme mon cousin. Et normalement, on commence par le kayak. Et lui, il m'a dit, non, tu feras du kayak comme tout le monde. Et j'ai dit, alors, j'en fais pas.
La tête brûlée arrive.
Voilà. Et finalement, il m'a vu partir. Ouais. Il m'a rattrapé, il m'a dit t'inquiète, on va te trouver un canoë. Et il m'a fait faire du canoë. Et puis après, quand je suis arrivé, tu vois, j'étais au mois d'août, il faisait beau, l'eau était chaude. Puis je suis arrivé à Avignon-sur-Verdon. Donc l'eau, franchement, j'exagère un peu, mais 3 degrés. au mois de novembre, j'avais aucune affaire, des trucs en coton, aucun truc technique. Et là, j'ai passé la pire matinée de ma vie. J'ai fait que nager dans l'eau à 3 degrés. Et c'est là où l'instinct de survie est arrivé. J'ai dit non, je continue.
Ok. Et ouais, tu te souviens des émotions? Je sais pas, qu'est-ce que tu ressens à ce moment? C'est se combattre contre un élément? C'est dompter un canoë? Tu vois, c'est pas forcément, c'est la notion d'équilibre qui te plaît? C'est quoi le truc qui te fait vibrer, quoi?
Alors, franchement, c'est l'eau. Mais par contre, là, à ce moment-là, là, quand c'est dur, quand il fait froid, on se rend pas compte à quel point ça fait peur, l'eau.
Ouais.
L'eau, il y a rien de plus fort. L'eau, ça éteint le feu, ça éteint le vent, ça éteint la terre. C'est le plus fort des éléments. Et quand l'eau, elle bouge fort devant toi, Je sais pas si ça fait... Les gens qui ont fait du surf, qui voient une énorme vague arriver, ils comprendront ce que je dis, mais quand on se rend compte de la puissance de l'eau, ben, on se chie dessus littéralement. On a vraiment peur. Et c'est là d'où vient l'expression, c'est qu'on a vraiment peur, quoi. Et à ce moment-là, je crois que en fait, ce qui m'a plu, c'est de surmonter ça. Parce qu'il n'y avait rien de plaisant. Il n'y a rien de plaisant là-dedans, quand il fait froid.
Ouais, c'est clair.
Et au final, après, petit à petit, tu apprends à maîtriser ça. Et en fait, au fil des années, tu t'entraînes l'hiver, tu souffres un peu l'hiver pour pouvoir profiter l'été et faire des trucs magnifiques, en fait.
Mais c'est beaucoup de souffrance l'hiver.
Ouais, vraiment. Surtout pour...
Quelqu'un qui vient du sud.
Ouais, j'allais dire ça. Ouais, non, mais c'est... Ouais, je suis frileux, j'aime pas ça, quoi.
Ouais, ok.
J'aime bien l'eau, mais à la plage, quoi.
Ouais. Et ça, t'as tout de suite été bon dans le sport ?
Non, en fait, c'était compliqué de savoir parce que s'il y a un grand club à Marseille, on n'est pas d'une région où le canoë est très fort. Et puis surtout, je faisais une discipline qui était un peu moins pratiquée. Le canoë et slalom, c'est un peu moins pratiqué que le kayak. Donc, j'étais souvent seul au début dans les catégories minimes et tout ça. J'étais un peu seul. Donc, je faisais des compétitions, mais je gagnais ou j'étais sur le podium à chaque fois parce qu'on était 3 ou 4. Quoi.
Okay.
Donc, c'était l'animation, elle n'était pas dingue. En comparaison avec d'autres régions où il y a beaucoup de monde, quoi, beaucoup de voilà, où on peut voir déjà qui est fort sur une génération. Et en fait, j'ai découvert que j'étais bon assez tardivement quand je suis arrivé cadet vers 15 ans où j'ai gagné les championnats de France et en m'entraînant dans des conditions qui étaient lamentables par rapport aux autres, quoi. Donc, et c'est là où je me suis dit, déjà avec mon, je pense que j'étais très déterminé à devenir un champion. Et c'est là où j'ai vu que je pouvais le faire, peut-être.
C'est marrant que tu dis ça, j'ai vu que je pouvais le faire. T'avais confiance en toi avant ? Comme je te dis, j'avais lu effectivement que l'école, c'était pas trop ça, tu vois. Et moi, ça a beaucoup limité ma confiance en moi quand j'étais jeune, tu vois. Et j'allais vraiment chercher ma confiance en moi ailleurs dans le sport ou dans les activités que je faisais à côté. Mais ça a toujours été un frein, tu vois. Et il y a des événements, des fois, comme ça, qui te font passer un cap et te dire, ah, en fait, je vaux beaucoup plus que je ne le pense. Est-ce que toi, ça a été un moment révélateur pour toi ?
Je dirais que c'est un peu tôt, parce que même si j'aimais pas l'école, que c'était dur, que c'était compliqué, en tout cas, moi, j'ai toujours été un peu grande gueule, bagarreur. Peut-être parce que je viens d'un endroit où, si tu ne l'es pas...
On t'écoute pas, ouais.
Non, tu vois, tu n'existes pas, en fait. Et donc, non, je pense pas... Je pense que j'ai toujours eu une grande confiance en moi. Mais une grande confiance en moi à faire des choses. C'est-à-dire, je ne suis pas très confiant sur la conceptualisation, la réflexion, expliquer des choses à quelqu'un, c'est très dur pour moi. Mais par contre, faire, tu vois, me jeter à l'eau, essayer, me casser la gueule, me relever, tout ça, ça c'est mon ADN, c'est moi. Et je n'ai pas du tout peur de ça et j'ai souvent même tendance à avoir un coup d'avance sur pas mal de choses parce que je réfléchis moins que les autres. Enfin, c'est pas que j'y réfléchis moins, mais...
Plus d'instinct, peut-être.
Je me lance plus vite que les autres dans certains projets, une certaine démarche.
C'est ton point fort ? Tu le dirais ?
Je sais pas si c'est un point fort. Des fois, je suis trop en avance.
Enfin, tu tombes.
Ouais. Non, mais c'est vrai. En fait, tu sais, par exemple, quand t'évolues dans un système, c'est casse-gueule et c'est pas très agréable d'avoir un temps d'avance ou un temps de retard. T'es confortable quand t'es dans le moule, quoi. C'est un petit peu pareil qu'à l'école, en fait. T'es confortable quand t'es dans le moule, que tu réponds aux normes, que tu réponds aux critères et que tu fites avec ce qu'on te demande. Si t'es trop en avance, on a souvent tendance à te dire ralenti. Si t'es en retard, on bouge un peu les fesses. Donc je pense pas que ce soit un point fort, mais c'est une caractéristique de ma personnalité. C'est je réfléchis beaucoup à ce qui va se passer.
T'essayes de te projeter, c'est ça ?
Ouais.
Ok. Hormis le kayak, il y a d'autres éléments de ta vie où tu te projettes beaucoup ? Ou c'est tout sur
tout ? Je fais ça pour tout.
Ok.
Ouais.
Et à l'école, ça ne te servait pas du coup ?
Alors à l'école, en fait, je pense pas que je suis un garçon non intelligent. Juste, je pense que je ne correspondais absolument pas à ce qu'on attendait de moi. Je pense que je voulais aller trop vite. Voilà. J'étais très dynamique, très stimulant. Et en fait... Quand on calme un mec un peu, ou une personne un peu dynamique, en fait, la tendance, c'est il va être un petit peu... en fait, il s'éteint, quoi. Tu vois, donc, soit j'étais trop dynamique, soit on me calmait et je me faisais chier.
Ouais. Ouais, mais c'est dur de canaliser son énergie à l'école, tu vois. On te demande d'être 7 ou 8 heures assis par jour, d'écouter. Tu peux très peu t'exprimer finalement. T'as pas beaucoup de moyens d'expression, tu vois, hormis écrire et de temps en temps lever la main et poser une question. C'est le seul moment où.
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que. Mon souvenir de l'école, les gens qui m'entourent là-dedans, enfin ma famille, quand je dis ça, ça les exaspère. Mais c'est pas grave, je le dis quand même, c'est moi qui l'ai vécu. Moi, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps à l'école.
C'est vrai?
Ouais, j'ai l'impression d'avoir perdu des années de ma vie. Tout simplement parce qu'en fait, c'était pas fait pour moi. Et que là où j'avais besoin d'aller à une certaine vitesse, d'essayer de faire, de toucher, de construire. Tu vois, moi, mon rêve, c'était devenir... Un autre rêve que j'avais, c'était de devenir cuisinier. J'ai toujours voulu être cuisinier, tu vois.
Okay.
Mon stage, que tu fais quand t'es en troisième, là, je l'ai fait en cuisine. J'ai toujours aimé cuisiner avec ma mère, j'ai toujours... ou avec mon père aussi, mais j'ai toujours adoré ça. Et j'aime toujours ça, et j'adore les restos. Je suis admiratif devant ce qu'arrivent à faire les chefs. J'aime tout, quoi. J'aime vraiment toute la culture de culinaire, tu vois. Je suis comme un fou quand ma belle-mère, elle cuisine des plats. Ma belle-mère, elle vient du Bangladesh, donc elle a des recettes que nous, les Français, on connaît pas, une manière de faire qu'on connaît pas. Je suis très curieux, j'aime apprendre, j'aime faire de la même manière, à amener, tu vois. Bon, ben moi, je voulais aller faire l'école hôtelière.
T'as mangé avec les mains?
Ouais.
Ouais. C'est un truc que tu fais.
Je fais pas souvent, mais.
Bien sûr, ouais.
Oui, mais oui, c'est traditionnel, ouais.
J'ai une amie qui vient du Bangladesh, elle m'a dit, ouais, si tu veux manger. Un jour, on lui avait dit, cuisine pour des amis. Elle a dit, ok, je veux bien cuisiner, mais il faut manger comme chez nous, on mange.
Ouais, ça n'a pas le même goût.
Et ça n'a pas le même goût, ouais. Surtout, en plus, quand tu fais un plat un peu en sauce avec du curry, ouais, et tout. C'est pas naturel, quoi. Nous, on sait pas faire.
Il y a une technique. C'est...
Ouais, ouais, il faut positionner les doigts, là, ouais, comme ça. Ouais. C'est pas facile. Mais... Ok, et... désolé, petit aparté.
Ouais, pas de soucis.
Entre passionnés de bouffe.
Et donc, ouais, donc moi, je voulais faire l'école hôtelière. Et donc, on y était allé avec mon père. Et j'ai dit, mais par contre, je veux faire du sport aussi. Je suis un projet de haut niveau. Je m'entraîne. J'étais champion de France à l'époque. Ils nous ont pris de haut. En fait, le problème du système scolaire en France, enfin, que moi, j'ai vécu, c'est que. Ils nous ont dit, mais non, c'est pas possible. La filière technique, il faut s'y donner à 100%. Tu peux pas faire du sport. Et voilà. Ce qui est faux, en fait. C'est archi faux. Ouais. Tu peux faire plein de choses.
Bien sûr. Ouais.
Et ça, c'est un grand regret. Je regrette de ne pas l'avoir fait.
Tu pourras toujours le faire. Hein.
Bah, j'ai plus envie maintenant parce que j'ai changé de point de vue. Puis j'ai pris une autre direction dans la vie. Mais c'est quelque chose que j'aurais. Tu vois, je regrette de pas l'avoir fait. Moi, quand on me demande des conseils, souvent les gamins ils viennent me demander des conseils sur leur choix de. Sur leur choix de vie future, sur les écoles à faire et tout ça.
C'est une question que j'allais te poser. Qu'est-ce que tu dirais à un gamin un peu turbulent à l'école qui se trouve pas trop, tu vois?
Bah déjà, je pense que faire en sorte qu'il perde pas son temps. C'est-à-dire que moi, de ce que j'observe, en fait, on conseille toujours aux gens de faire des filières classiques, les filières à mon époque, c'était tu vas en seconde générale, après tu choisis littéraire, scientifique, économique, et machin. C'est plus comme ça maintenant, mais on pousse les gens à faire ça. Mais en fait, si t'es pas dans ce cadre-là, c'est l'enfer. Tu peux rien faire. Tu peux pas exprimer ton talent, tu peux pas exprimer ce que t'es, et tu subis, en fait, et tu perds ton temps parce que comme on te cadre pas, on te freine, tu vois, ou on te surstimule, selon dans quel état d'esprit tu es. Bah, tu passes un mauvais moment, tu perds ton temps, en fait. Et donc, bah, moi, ce que je conseille, c'est toujours de, un, suivre ses rêves, parce que c'est quand même un moteur qui est très fort et qu'on oublie d'encourager. En général, les gens ramènent souvent la raison, et ce qui est dommage. Alors, je suis conscient que tout le monde ne peut pas réussir à devenir sportif professionnel, tout le monde ne peut pas réussir à réaliser ses rêves, ça, j'en suis conscient, mais je vois pas pourquoi tu pourrais pas essayer. Et deux...
Et tant que t'as pas essayé, tu sais pas si tu réussiras.
En plus... Okay. Et deux, perds pas ton temps. Tu vois, si t'as envie de faire une école de mode, fais une école de mode. Si t'as envie de faire une école de cuisine, fais une école de cuisine. Si on te dit de faire STAPS, parce que dans le sport, c'est ce qu'on conseille à tout le monde de faire à la fac de sport, c'est bon, des profs de PS, on en a, tu vois. Fais autre chose.
Ouais.
Y a pas que ça. Alors, c'est facile, en fait, tu peux t'entraîner, il y a des filières qui connaissent et tout ça. Mais bon, est-ce que tu apprends quelque chose qui va te servir dans ta future vie? Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu apprends? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu perds pas ton temps?
C'est une réflexion que je voulais te partager, vu que t'es papa et moi aussi, tu vois. C'est quand tu as eu une scolarité où tu te sentais pas très bien, Et effectivement, tu as un peu l'impression par moment de perdre ton temps ou d'être pas à ta place, en tout cas, tu vois. Et j'ai l'impression que peut-être les personnes comme nous vont prendre un petit peu plus de recul, tu vois, par rapport à leurs enfants et se dire, OK, bah, est-ce que je pourrais essayer justement de lui faire voir d'autres choses, de l'ouvrir un peu les yeux sur d'autres univers, tu vois. Et finalement, il y a plein de trucs, tu vois. Là, tu mentionnes la cuisine, le sport, t'en fais à l'école. Tu fais un petit peu de musique, tu fais un petit peu d'art, mais tu mentionnes la cuisine. Mais tu vois, il y a tellement de trucs que tu vois pas à l'école, tu sais, que tu fais pas grand-chose. Que moi, j'ai envie, tu vois, pour mes enfants, justement, de leur ouvrir l'esprit et très rapidement, tu vois, de leur faire découvrir plein d'univers. Toi, c'est une réflexion que t'as vis-à-vis de tes filles?
J'essaye d'être humble, parce que c'est très compliqué d'élever un enfant. J'ai deux filles, la plus grande, Sonam, elle a 9 ans. Et il se trouve que ça se voit qu'elle est faite pour l'école, elle. vraiment, elle adore ça.
Tant mieux, c'est plus facile.
Je suis très content, je lui dis toujours que je suis très content de ça parce que je lui raconte, je lui dis que c'était que papa, il aimait pas l'école, que c'était très dur, que le matin, il voulait pas se lever, que c'était pas agréable, quoi. Et donc, je lui dis, je suis très fier de toi que l'école te plaise, que tu rigoles, que t'aimes apprendre. Et puis, elle se force pas du tout, quoi. Elle le fait pas pour me faire plaisir. Elle passe son temps, elle adore lire, elle adore comprendre, elle adore éduquer. Elle est très, très éveillée, très, enfin, et ça se voit qu'elle est faite pour ça. Et la deuxième, elle a un autre caractère, mais elle a 4 ans, donc c'est dur de, c'est dur de voir si elle aime l'école ou pas. On verra bien. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, moi, je sais que la seule chose que je peux faire, c'est parce que donner la responsabilité à mes parents, je peux pas donner la responsabilité aux gens qui m'ont entouré. C'est un peu le mode de pensée de tout le monde, de dire, bah, si tu veux faire quelque chose de correct de ta vie, il faut aller en général. Les BEP et tout ça, c'est pour les ratés. Et c'est pas vrai. Parce que tu parlais de cuisine juste avant, mais moi, par exemple, j'ai découvert que la mécanique, c'est un truc qui me passionnait aussi.
Bah, c'est génial. Ouais.
Et tu t'apprends ça, mais j'aurais adoré toucher à ça. Alors après, plus tard, via le sport, bah, nos canoës, ils sont faits en composite, en carbone, en fibre de carbone, qui sont avec des colles et des résines spéciales. Et ben, j'ai adoré aller à l'atelier, fabriquer un bateau, faire un shape, apprendre à comprendre comment marchaient les différentes résines, les différents tissus, quelle était leur résistance, pourquoi est-ce qu'il fallait le mettre comme ça, de telle manière, dans la construction, comment on faisait un moule, quel impact ça allait avoir sur la forme du canoë dans l'eau, comment est-ce que ça se retransmettait les forces et tout ça. C'est des trucs, c'est passionnant, mais que j'ai découvert par le sport, en fait, et que si on m'avait présenté ça à l'école, je pense que j'aurais sauté sur l'un des autres. Je pense que j'aurais choisi la cuisine parce que j'adorais ça. Mais c'est là où je vois où après j'ai compris. J'ai dit, mais en fait, j'étais vraiment pas fait pour le système classique où tu conceptualises, tu suis une règle, tu schématises. Et tu vois, je commence à faire des erreurs avec ma fille parce que j'adore les maths et je m'occupe des maths quand elle fait des devoirs et tout. J'aime bien l'aider sur ça. Et tu vois, la dernière fois, j'ai fait une erreur. Je lui ai dit, il y avait un exercice, j'avais pas la leçon. Il y avait un exercice, il fallait qu'elle fasse un exercice. Je lui ai dit, tu fais comme ça. En gros, je lui ai donné un raccourci.
Ouais, ce qu'on fait souvent, voilà. Pour les parents.
Et en fait, elle a eu une mauvaise note parce qu'elle a pris le raccourci et elle a pas fait le bon tableau des proportionnalités. Ce que je trouve absolument profondément stupide, de mon point de vue, de pas laisser faire ça à un enfant qui a compris. Mais non, en fait, la règle, le système, c'est que tu dois apprendre à faire comme tout le monde. Si tu t'épanouis là-dedans, pas de souci, mais moi, j'étais incapable de faire ça.
Ouais, il y a plein de trucs comme ça, tu sais, que même les additions, tu sais, les additions, si je te fais 283 plus 549, plus, je sais pas, 722, il y a une autre manière de les faire qu'on t'apprend à l'école, qui est beaucoup plus facile pour résoudre l'addition, tu vois. Et quand tu l'apprends, on te met zéro à l'école, tu vois, parce que t'as pas respecté la règle, le format,
C'est ça.
Oui. C'est dingue. Merci de partager tout ça, tu vois. Moi, ça m'inspire déjà en tant que papa. Et je sais qu'il y a beaucoup de papas et de mamans qui nous écoutent. Et tu vois, on se pose beaucoup de questions sur l'éducation des enfants. Et quand tu as une ADN sportive, tu vois autre chose. Tu vois un autre format. Tu vois, c'est une autre école. On dit souvent le sport, c'est une école de la vie, tu vois. Et je pense que quand effectivement tu as fait du sport à haute dose, tu vois, tu as envie de montrer d'autres choses à tes enfants. Parce que tu sais qu'il existe un autre monde ou d'autres mondes, tu vois, entre guillemets. Et d'ailleurs, tiens, toi qui aimes bien les podcasts, si t'écoutais Génération de Do It Yourself, il y avait un gars, alors c'était au tout début, il faudrait que tu retournes dans les premiers, mais qui a monté Blitz Motorcycle, comme je te vois avec un casque de moto là. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un type, voilà, il a fait 20 ans de carrière dans la pub, le web, tout ça. Du jour au lendemain, il a pété un plomb. Il a fait un CAP mécanique. Et aujourd'hui, il reconstruit des motos de A à Z et il fait des œuvres d'art, tu vois. Et c'est magnifique. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est brillant. C'est de l'artisanat de haut vol, tu vois. Et pourtant, s'il avait, tu vois, et il montre en fait que c'est des filières qui peuvent être très valorisantes. En fait, si tu es doué dedans et que tu te transcendes là-dedans, tu peux faire des choses magnifiques. Aujourd'hui, c'est une entreprise, ça marche, ça cartonne, tu vois. Et on dénigre souvent, tu vois, les filières techniques comme des petits trucs, tu vois. Et
pâtissiers.
On te donne même pas l'ambition.
Non, mais regarde les pâtissiers aujourd'hui, c'est la même chose.
Ouais, c'est des artisans.
C'est des stars.
Ouais, c'est clair.
C'est des stars. Et ils font des tartes au citron. Non, mais c'est vrai.
C'est plus que des tartes au citron. Moi, je pourrais dire.
Non, mais je suis d'accord, mais et même la plupart, ils en font plus.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu vois, Pierre Hermé, des machins, à la base, c'est des mecs qui sont hyper doués. Et c'est une filière, quand tu dis pâtissier, à mon époque, tu vas faire des pains au chocolat et des pains au raisin, quoi.
Faut commencer par la base.
Voilà.
Mais c'est sûr que ça te fait pas rêver. Ça te montre pas le côté. L'école te montre pas, en tout cas, l'excellence qu'il peut y avoir dans ce métier-là, quoi. Mais hyper intéressant. Je vais changer un petit peu de sujet. On va swifter un peu de. Et j'avais envie de parler un peu de préparation mentale. Tu vois, ouais. On a parlé un peu tout à l'heure de. T'as parlé un peu de survie, de construction, que t'étais pas quelqu'un qui avait l'esprit de compétition, mais quand même fier, confiant en toi, tu vois. Déjà, est-ce que tu t'es fait accompagner par un préparateur mental? Est-ce que c'est un truc que t'as fait? Est-ce que c'est naturel, tu vois, ce que tu dégages? Parce qu'en revoyant les images qu'il y avait, tu vois, de toi à Rio, sur la ligne de départ avant la demi-finale et la finale, on voit dans ton regard que tu vas gagner. Tu vois, c'est facile de dire après coup, tiens, là, Denis, il va gagner. C'est dur de parier à ce moment-là, tu vois. Mais après coup, on voit que t'es sur un nuage. T'as un regard qui sait où il va et qui sait ce qu'il veut, tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que t'as travaillé pour être dans cet état-là, tu vois, à ce moment-là?
Ouais, en fait, j'ai travaillé toute ma vie. Pour moi, ça, c'est la consécration de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et alors, c'est peut-être étonnant d'entendre ça de la part d'un athlète, mais moi, à ce moment-là, quand je me reprojette, et même il y a même des moments où, tu sais, j'étais tellement hyper conscient. En fait, je sais pas si c'est un mot, ça, hyper conscient, mais en fait, t'es tellement hyper concentré que des fois, t'arrives à t'observer, tu sais, à prendre du recul en même temps que tu fais les choses. Et ben, il y a des moments avant cette course où quand je prenais du recul, je me disais, mais je me fais peur, en fait. Je me fais flipper. Je pourrais faire des choses. Je pourrais faire des choses dans cet état-là, là, de des trucs de dingue, quoi. Et ça, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'en fait, plus grande, et c'est pour ça que souvent j'ai dit j'adore l'enjeu, j'aime quand la compétition elle est grosse, j'aime que je sois attendu, j'aime ça, parce qu'en fait plus l'enjeu est gros, plus mon instinct de survie il s'adapte et plus j'élève mon niveau. Et c'est en ça que je te dis que je suis pas compétiteur, c'est que je me fous de tout gagner, de gagner la course régionale du con ou quoi. C'est pas parce que je la respecte pas, cette course, c'est juste parce qu'elle ne me procure aucune sensation et du coup j'ai aucun instinct de survie. Et ça, c'est hyper compliqué à faire comprendre aux gens. Et j'en ai beaucoup souffert justement après ce titre olympique, où en fait, derrière, tout était fade. Plus aucune compétition ne me procurait cet état d'esprit. Ce stimuli qui me demandait à moi de réagir pour survivre à cet événement. Et oui, alors pour revenir sur ta question, oui, de la préparation mentale, je pense que j'en ai fait malgré moi. J'en ai fait aussi avec des préparateurs, des gens dont c'est le métier. J'ai pioché des techniques, des idées, des méthodes, et j'ai fait ma sauce. En tout cas, pour cette course-là, j'étais seul, quoi. Avec plusieurs recettes que j'avais puisées chez les uns et chez les autres, mais je n'étais pas accompagné. Quand j'ai accompagné, je n'étais pas au téléphone avec mon préparateur mental 2 heures avant. Voilà.
C'est plus un travail de fond que tu as fait avec différents outils.
En 2016, par exemple, j'ai passé 45 minutes avec psychologue du sport, une dame dont je tairai le nom, qui avait accompagné mon entraîneur et qui avait bien voulu me recevoir. On avait discuté, on avait mis en place quelque chose et en 45 minutes, il s'est plié et j'avais plus parlé à personne pendant l'année.
Mais ça se voit que chez toi, c'est naturel. Il y a un côté où ça sent que tu as fait beaucoup d'introspection et que tu te connais bien, que tu sais qui t'es, quoi. Et que tu sais d'où tu viens et tu dégages ça, tu vois.
D'accord. Mais parce que ça, c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire, je réfléchis énormément à ce que je suis, pourquoi je le suis et d'arriver à cette conclusion de dire je suis pas compétiteur mais je suis survivant, c'est quand même une grosse différence. Ça m'a demandé du temps, beaucoup de temps d'introspection, de réflexion, de pourquoi. J'en ai beaucoup parlé avec des gens qui me connaissent depuis petit aussi et qui m'ont aidé avec moi ce que j'ai vécu, tu vois, avec mon regard, mon propre ressenti et avec eux à comprendre aussi que oui, j'ai ça en moi. Avant, je pensais que j'étais juste un bagarreur, tu vois, mais je ne suis pas vraiment un bagarreur. Tu vois, je remarque aussi dans la vie, je réagis, mais je n'attaque jamais.
C'est de la défense que tu utilises.
Ouais. Par contre, je réagis. tu me donnes un coup, j'en donne deux, quoi. Mais je n'attaque jamais.
Non, mais c'est beau comme philosophie, tu vois, et de l'avoir trouvé à l'intérieur de toi. Tu vois, et là, je suis en train de... Comme je te disais, là, du coup, je viens de quitter ma boîte. Je me dis, bon, allez, un truc qui me fait triper en ce moment, c'est la prépa mentale. J'ai envie de découvrir un peu, tu vois, quelques outils et tout. Et je discutais avec un athlète il y a 3 jours qui réfléchissait à se faire accompagner et qui me demandait pourquoi se faire accompagner ou pas. Et il me dit, ouais, je comprends pas, il y en a qui y arrivent sans et il y en a qui, avec, y arrivent même pas ou y arrivent, tu vois. Et je lui dis, peu importe en fait ça. Est-ce que toi, tu te connais? Est-ce que tu as besoin encore d'ouvrir des portes en toi que tu connais pas? C'est juste ça la différence. Un préparateur mental, c'est que ça. Toi, tu l'as fait avec tes amis ou moi, tu l'as fait peut-être tout seul. Mais...
Peut-être tout seul, mais moi, il y a un truc sur lequel je voudrais insister sur ça, c'est que pour moi, la préparation mentale, c'est un concept. La meilleure préparation mentale, c'est tes histoires de vie. C'est-à-dire que...
Et c'est comment tu te la racontes
aussi. Aujourd'hui, moi, quand je regarde le sport de haut niveau, j'ai un peu d'expérience. Je vois ce qui fait qu'il marche, ce qui fait que tu deviens un champion ou pas, ce qui fait que tu gagnes des courses ou non. Et il y a des choses que, tu vois, que j'observe et dont je suis assez certain, c'est que la technique, ça s'apprend, la force, ça se développe, la méthode d'entraînement, tu peux progresser. Et le top 10 mondial dans chaque sport, sauf certains sports où il y a vraiment des disparités entre les vrais meilleurs et puis le 10e, mais dans les sports qui sont denses, le top 10 mondial à l'entraînement, il n'y en a pas un qui est meilleur. Ils sont tous capables de faire la même chose. Par contre, le champion, c'est celui qui est capable de le faire au bon moment, le bon jour, à la bonne minute. Et ça, c'est des histoires de vie. C'est ce qui t'a amené à être là. Et ça, tu ne peux pas l'apprendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire,
c'est, bien sûr,
que ça
bien
tombe,
sûr.
Il ne faut pas que ça te tombe dessus, mais il faut que tu le vives. Et aujourd'hui, bah, on a tendance à vouloir se préparer très tôt, faire de la muscu très tôt, réfléchir à la tête et au mental très tôt, se complémenter alimentaire, au niveau alimentation très tôt, tout faire très tôt en se disant, mais si je fais ça plus tôt, je vais être meilleur plus tôt. Et on oublie le truc qui est le plus important, c'est que tu vas peut-être progresser en termes de niveau, mais ce qui va faire un champion, c'est ses histoires de vie, c'est la vie qu'il va avoir. Un gamin de 15 ans qui fait de la muscu, qui fait attention à ce qu'il mange, qui s'entraîne comme un senior, qui fait 2 entraînements par jour, quoi. En gros... qui fait... Ben ça, pour moi, c'est une erreur. Tu vas progresser plus vite, tu vas arriver à un certain niveau très vite, mais par contre, tu ne vis pas des choses qui vont te permettre, le jour où tu vas être face à un événement, comme les Jeux Olympiques, un championnat du monde, un truc, qui vont te permettre de l'appréhender, de le surmonter.
Ouais.
Tu vois ?
Je vois ce que tu veux dire.
Alors, je prends toujours cet exemple, mais les bêtises que tu peux faire quand tu es au lycée avec tes potes, les histoires de vie que tu peux avoir à la fac avec des gens, tout ça, il faut les vivre. C'est ça qui te sert. C'est ça qui va te faire devenir un champion. Tu vois, c'est pas le nombre de poids que tu as poussé en muscu. C'est pas le fait de t'entraîner plus que les autres. Bien sûr qu'il faut passer par là, mais tu peux le faire après ça. Et il faut pas sacrifier ces moments de ce qu'on appelle de socialisation où tu te formes, où tu te forges ton caractère, où tu te forges ton, tu vois, ta vision du monde, tu la construis, tu rencontres des gens, tu t'éduques. Moi, tu vois, par exemple, je suis vachement éduqué à toutes les religions parce que je viens d'un milieu multiculturel. Je, Je sais ce que c'est que la vie d'un... En partie que la vie d'un gitan, je sais ce que c'est que la vie d'un maghrébin à Marseille, je sais ce que c'est que la vie d'un africain à Marseille, je sais ce que c'est la vie d'un petit français comme moi à Marseille. Je me suis posé plein de questions sur ça. Et j'ai grandi, j'arrive à me positionner dans le monde. Aujourd'hui, je sais où je suis, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller. Et ça, c'est un truc que tu peux pas apprendre après. C'est trop tard. Une fois que tu as 20 ans, c'est fait. C'est trop tard. Tu peux pas revenir en arrière. Par contre, tu peux aller te faire des séances de muscu après, tu peux aller t'entraîner, tu peux te rattraper ça. Et je reviens sur le thème principal, c'est quoi la préparation mentale ? Eh ben pour moi, c'est ça la préparation mentale. Comment tu apprends à vivre ? Comment tu apprends à te positionner par rapport au monde ? Comment tu... Est-ce que tes compétiteurs, il y en a, ils sont compétiteurs, ils veulent tout gagner ? Ben, exploite ça. Est-ce que t'es un survivant comme moi ? Parce que ça te parle. Est-ce que tu réfléchis comme moi ? Ben, exploite ça. Est-ce que t'es timide et que t'as peur de la confrontation, mais que tu veux quand même faire du sport de haut niveau ? Eh ben, exploite ça, t'es timide, cache-toi, respecte-toi, mets-toi dans ta bulle, ne parle pas aux autres. Si c'est ce qui te fait marcher, parce que tu sais que t'es comme ça, parce que tu t'es questionné, tu t'es observé et t'as essayé des trucs, va là-dedans. En gros, mais ça, c'est des histoires de vie, tu vois.
Ouais,
c'est,
bien sûr.
C'est des histoires d'amour que t'as quand t'es gamin, c'est, tu vois, qu'à 15 ans, c'est, mais tout ça, c'est la préparation mentale.
Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr.
Et après, t'as les méthodes. Et les méthodes, ça s'apprend aussi. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut t'aider à le préparateur mental. Pour moi, c'est celui qui arrive à organiser ça. C'est celui qui va t'aider à...
Qui te fait connecter les points, qui te met les bons outils au bon moment et qui te... Ok.
Mais il faut pas aller trop vite. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut pas aller trop vite en...
Pour les gamins.
Ouais.
Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup d'ados, tu vois, si tu leur fais trop d'introspection trop tôt, ça peut les faire vriller, tu vois.
Ils ont pas fini de se construire.
Exactement. Donc,
ils ont pas à réfléchir à ça.
Ouais.
Ils n'ont pas à réfléchir à ça.
Il faut les pousser dans leur candeur et dans leur naïveté, au contraire.
Exactement, ouais, voir où ça les mène. Et avec le cadre, parce que... Mais j'ai, tu vois, moi, je ne veux pas parler de ça. Je trouve qu'il ne faut pas le faire. Après,
je suis d'accord. Ouais. Tu as beaucoup parlé de parcours de vie. Tu vois, il y a quand même une question que je me posais, c'est est-ce que ça met la pression en tant qu'athlète quand dans ton sport, tu as eu beaucoup de noms, de grands noms avant toi, tu vois. Et il y a Lefebvre, tout à l'heure tu mentionnais Barbara, c'est ça ?
Myriam.
Myriam, pardon.
C'est presque pareil.
elle m'en voudra pas, je vais l'inviter pour me faire pardonner. Tu vois, après tout le monde parle de Tony, mais tu vois, le kayak français, c'est quand même une famille très très performante, à l'échelle mondiale, en tout cas de mon point de vue. Comment est-ce que toi tu l'as utilisé pour en faire une force ? Parce qu'en plus c'était peut-être le petit jeune, arrivé un peu plus tard que tout le monde, mais...
Je vais peut-être paraître un peu redondant et te faire un peu la même réponse, mais pour moi, ça fait partie d'une agression. C'est un peu comme une agression. Quand on parle de Tony à longueur de journée, je dis, il faut que je sois... C'est à moi de gagner des compétitions pour qu'on parle de moi. C'est une réaction. Je prends ça comme une attaque, moi.
Ouais, le gamin...
Et je réagis. La veille des Jeux, il y a un journal qui titrait « Les kayakistes, après Estanguet, sont condamnés à réussir pour exister. »
C'est dur.
En fait, ça met de la pression. Ça met de l'enjeu.
Ouais, bien sûr.
Mais encore une fois, c'est quelque chose que moi me stimule. Maintenant qu'on en a discuté, tu vois, ça n'a fait que accroître le phénomène de vouloir survivre à ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est la survie. Si je réussis pas, on parlera pas de moi, quoi.
Exactement.
Et je pourrais pas vivre dans mon sport.
Exactement.
Ouais.
Donc, je le vois pas comme quelque chose de mal. Au contraire, ça, c'est nouveau. C'est assez nouveau, mais il y a quelqu'un qui a dit, une personne que j'admire beaucoup, qui a récemment été championne olympique de judo, qui m'a dit « La concurrence, c'est un cadeau ». Ça m'a fait réfléchir, ça a trotté dans ma tête depuis. Je me suis dit « Mais en fait, t'as trop raison ».
Bien sûr.
Ça dépend de quel point de vue tu te places, du point de vue confort ou du point de vue survivant.
Et le survivant, il ne peut pas vivre sans concurrence.
En fait, non. J'existe pas s'il n'y a personne.
Ouais, c'est marrant que tu le vois comme ça, tu vois. J'imagine que le gamin de 20 ans, un peu arrogant, un peu prétentieux, il devait pas le voir comme ça, tu vois, à l'époque.
Non, mais je pense que j'étais pas... Non, mais par contre, je pense que j'étais déjà dans cet état d'esprit de dire, attends, pourquoi lui et pas moi, quoi. C'était pas du tout agressif envers lui.
Non, c'est une histoire avec toi-même.
Ouais, c'est plus avec moi, ouais. Ouais.
Mais tu vois, c'est ça qui est dur dans les belles concurrences. Tu vois, là, je pense au tennis, tu vois. Pendant très longtemps, tout le monde pensait que Roger et Raphaël, tu vois, ils se détestaient, tu vois. Aujourd'hui, c'est les meilleurs amis du monde. enfin les meilleurs amis du monde. Je sais pas, tu vois, je suis pas dans leur intimité, mais tout le monde a essayé de faire en sorte que c'était le duel. Ils se détestent, ils sont aux opposés. L'un il joue comme ça, l'autre il joue comme ci. Et au final, en fait, ils ont eu besoin l'un de l'autre, tu vois. Ils ont créé leur légende à eux deux. Et aujourd'hui, ils ont plus le record de titre, tu vois. C'est Djoko qui l'a. Je pense que lui, il en souffre plus, tu vois. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais eux, en fait, ils ont construit leur légende, tu vois, l'un grâce à l'autre. Et au moment où ils sont sortis un peu des médias, où ils sont sortis de... Non, mais en fait, on est pareil, toi et moi. On a besoin l'un de l'autre pour se challenger, pour se tirer la bourre. Que bah, l'histoire, elle est encore plus belle, tu vois, je trouve. Et c'est ça qui est dur, je trouve, en tant qu'athlète, c'est de pas rentrer dans ce truc de... Et moi, je viens d'y contribuer, tu vois, je suis con, tu vois, en tant que... au jeu des médias, tu vois, de nourrir un peu le truc. Alors qu'au contraire, c'est juste une histoire d'homme,
ouais.
Où tu tires l'autre, tu vois, de...
Non, mais par contre, encore une fois, je te dis...
Désolé, je te fais mon interprétation, mais...
Non, mais les règles du sport, c'est... Les règles du sport, c'est le respect de l'adversaire, le respect des règles, la volonté de se dépasser soi-même et tout ça, mais c'est pas de se faire mal. Peut-être, moi, personnellement, si j'ai une attitude agressive envers la compétition, envers mes compétiteurs, c'est pas une attitude agressive démonstrative. Je veux pas leur manquer de respect, je ne veux pas influencer leur performance, je ne veux pas les perturber, je suis concentré sur moi et moi seul. Je trouverais que ce serait mal gagné que d'influencer, tu vois, que d'avoir une mauvaise attitude envers eux. Parce qu'on n'est pas un sport de confrontation directe. Si je ferais du tennis, je serais un démon sur le terrain. mais c'est pas le cas là. Ouais. Tu vois, j'ai pas le droit d'influencer. D'ailleurs, c'est dans les règles. Je suis pas censé, tu vois,
influencer. Okay. Non, et puis en plus, vous êtes un sport où c'est une petite famille. Et tu me disais tout à l'heure, Mathieu,
oui, on se voit
aujourd'hui,
beaucoup, ouais.
Mathieu Péché, du coup, c'est un de tes meilleurs potes et tout. Eux, ils m'ont raconté un peu l'histoire, tu vois, de la fin du C2, qu'ils l'apprennent un peu comme ça, sur un coup de tel, on leur dit c'est fini, et puis plus personne les appelle et tout. Toi, vu que tu as fait les deux disciplines, eux, ils ont fait que du C2, tu vois. Comment tu l'as vécu, toi ? Ça a été évident pour toi qu'il fallait te remettre au C1 très rapidement ? Bah, toi, c'était déjà là-dessus que tu t'es remis, mais...
Ouais, moi, je m'étais remis très tôt. Et en fait, c'est... Avec le recul... Ils n'avaient pas vraiment le choix que de continuer là-dedans. Ils étaient focus sur leur perf et sur leur projet olympique pour Rio. Et donc, ils ne pensaient pas trop à l'après. Dans leur position, j'aurais fait la même chose. Mais moi, qui avais un double projet, donc sur lequel moi, je venais du canoë monoplace, j'avais fait un projet canoë biplace avec Fabien Lefebvre qui s'est arrêté. Et j'ai dit, je me rappelle très tôt avoir entendu ou avoir compris que le C2 après Rio, c'était fini. Et eux, j'ai eu l'impression qu'ils l'ont découvert un peu tard, en fait, ouais, par rapport à moi.
Ils ont peut-être pas voulu l'entendre.
Voilà. C'est mon avis, c'est ça. C'est que mais c'est difficilement entendable parce que c'est...
Bien sûr, c'est ta vie.
Ils prennent ton sport et ils le zigouillent, quoi. Donc je comprends tout à fait. Mais c'était une situation un peu... C'était difficile à vivre, en fait. Mais au final, je pense que ça a fait qu'ils ont passé une dernière Olympiade... à profiter, à kiffer, quoi. Et moi, j'ai
profité ensemble.
On en a bien profité. Ouais.
T'as une petite anecdote à nous raconter, petite fiesta ou
une. Ah, j'en ai plein. Non, j'en ai plein. Ça reste. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Ah, eux, ils ont lâché des trucs. Hein. Je dirais pas quoi, mais faudra que t'écoutes. Ils ont lâché quelques trucs.
Ouais. Non. Je les respecte trop. Maintenant, ils sont... enfin, y en a un qui
ils
est
ont
papa.
Plus rien à craindre. Et c'est quoi le rôle du meilleur pote justement à ce moment-là? Tu vois, Mathieu, il a raconté des trucs durs au micro. Tu vois, il a parlé d'insomnie, de
ouais,
de,
mais
d'eczéma,
je sais,
de tous les trucs.
Déjà, Mathieu, il dit pas quand ça va pas. Donc de toute façon, tu l'apprends après, parce qu'il est comme ça, c'est son caractère. Il intériorise vachement et. Et donc, tu le sais après que ça n'allait pas, en fait. Donc, de toute façon, tu arrives trop tard. Avec Mathieu, tu es toujours en retard. Tu es en retard sur tout. Il a la une des journaux avant les autres. Il capte Internet mieux que les autres. Il est tout le temps, tu vois, quand tu cherches un truc, il est insupportable. Et tu apprends qu'il a fait un truc après que ce soit fait. Et donc, bon, après ça, là, je parle de notre relation à lui et moi. Mais en gros, moi, je savais que ça n'allait pas, mais je ne savais pas que ça n'allait pas à ce point-là, quoi. Je l'ai appris après. Mais je le crois sur parole et... Et c'était des moments qui ont été... je pense que ça a été très dur. Et Gauthier, parce que je suis aussi très proche de Gauthier, Gauthier a mis... Je dirais que Mathieu, il a souffert très profondément et très fort. Et puis il s'est relevé. Il a touché le fond très vite et puis du coup, il est remonté très vite. Finalement, il a mis un an et demi à relever la tête. Gauthier, ça a été plus en pente douce. Ça a été compliqué.
Ouais, il s'est cherché, ouais. Moi, je l'ai vu, il essaie de travailler un peu pour la SNCF.
Ouais, c'était compliqué.
Il s'est cherché.
Et finalement, il en a beaucoup, beaucoup souffert. Et je pense, franchement, après, les deux en souffrent encore aujourd'hui. Même si on a, même si je sais que, tu vois, j'en parle avec, avec le pêche, il me dit tout le temps, c'est une autre vie, ça, c'est du passé. Mais...
T'es obligé de te dire ça, je pense.
Ouais, mais je sais qu'il aime toujours son sport. Je sais qu'il, tu vois, par exemple, moi, il me suit toujours dès que je fais une course moyenne. C'est le premier à m'envoyer un message pour me charrier. Gauthier, je sais qu'il est toujours là, qu'il suit, qu'il se renseigne. Je sais qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, je sais qu'aujourd'hui, s'ils remettent le C2 au niveau olympique, franchement, je pense qu'ils sautent dedans, les deux. Peut-être pas Pichou, mais je pense qu'ils sautent.
Ils y vont. Bien sûr. Ils ont une page à tourner. Ils ont un truc...
Non,
t'as toujours ce goût de pas fini.
Non, c'est pas ça, je pense pas. Non, franchement, c'est pas ça. C'est juste que eux, ils ont vraiment souffert d'arrêter, qu'on choisisse leur date d'arrêt, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. On a tourné la page à leur place, quoi.
Ouais, voilà. Ouais.
Un peu. Ok. Mais écoute, c'est cool de partager ça. Je sais que tu vois, les épisodes avec eux, ils avaient beaucoup plu aux auditeurs parce que c'était. Effectivement, c'est triste. Il y a une part d'émotionnel, tu vois, qui était fort. Et puis. Le grand public connaissait pas forcément cette histoire de l'arrêt du C2 comme ça du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain. Du point de vue de Mathieu et Gauthier, c'était un peu plus du jour au lendemain que
non, mais c'était soudain quand même.
Ouais,
c'était soudain, mais c'est juste que moi, il y avait pas de note. Tu vois, on n'a pas reçu de notification officielle comme quoi dans 4 ans le C2 c'est fini. Mais moi, j'ai l'impression de l'avoir vu venir.
On ne te prévient pas, on ne t'aide pas. Et... Voilà.
Moi, j'ai eu l'impression de le voir venir et eux, non. Après, moi, j'étais plus concerné, donc c'est peut-être pour ça que j'ai vu venir.
Il nous reste 10 petites minutes, là, tu vois, et donc je vais essayer de faire vite. Mais je voulais parler longévité avec toi.
Parce en que... 10 minutes
On va faire court. Pour une carrière longue, ce n'est pas facile, mais il y a des choses qui ont changé dans ton entraînement, dans ta façon d'appréhender La question que j'avais notée, c'est quelle est ta recette pour durer le plus longtemps possible?
Non, mais je pense que j'en ai une, en fait, que je veux bien partager. Parce qu'en fait, je crois que je viens de la comprendre. C'est qu'en fait, je me suis trouvé plein de projets. À chaque fois, il me faut des grands projets. Et
le golf, on fait partie?
Pas vraiment. Là, tu sautes des étapes. Mais j'allais dire, tu vois, par exemple, l'entrepreneuriat.
Ouais.
Ça a été un projet dans ma vie entre l'Olympiade de 2012 et 2014 et 2016. J'ai repris des études, je suis allé faire une école de commerce, j'ai monté une boîte, une première, j'en ai racheté une deuxième, j'ai fait une levée de fonds, j'ai passé par la vie d'un entrepreneur et ça a duré jusqu'en 2018. Et ça a été un projet de ma vie qui a été hyper important et qui m'a. Et à côté de ça, ça a alimenté le compétiteur, enfin l'athlète que j'étais et qui me permettait de, tu vois, de durer dans le temps parce que faire tout le temps la même chose, c'est rébarbatif, c'est dur, c'est comment tu progresses, sur quoi. Aujourd'hui, moi, je suis sur un nouveau projet qui est d'apprendre à pagayer à droite alors que j'ai ramé pendant 15 ans à gauche. Donc c'est un énorme projet, c'est gargantuesque parce que...
Tu redeviens débutant en fait.
Tu redeviens débutant, donc tu vas apprendre tout de A à Z, sauf que je me suis donné 4 ans pour le faire. Et
tu veux passer à Paris comme ça, en ramant...
En ramant des deux côtés, des deux côtés. En fait aujourd'hui mon projet c'est d'essayer de devenir aussi fort à droite qu'à gauche. Pour partager une image aux auditeurs, c'est un petit peu comme si Roger Federer, qui est droitier, se disait « Attends, mais je suis monstrueux à droite. »
Je vais avoir 2 coups droits.
Exactement. Si j'avais 2 coups droits et 2 revers.
Mmh. Ouais, parce que sans revers, il faut quelque chose.
Ouais. Non, mais parce que nous, en canoë, on pagaie que d'un côté. On a la rame, on la tient à gauche. Mais on peut pagayer à droite en faisant ce qu'on appelle un débordé, c'est-à-dire en fait on se tourne pour pagayer de l'autre côté. Et donc si je pagaye à droite aussi, je peux faire un débordé de l'autre côté aussi à droite. Ça fait 4 manières de pagayer différemment.
Plus des moments où tu pagayes en arrière, non, je crois.
Oui,
plus.
Mais oui. Mais, okay.
Mais si tu changes de côté, il n'y a plus aucun intérêt, c'est ça?
Non, tu peux pagayer en arrière de l'autre côté. Mais grosso modo, un parcours de slalom, c'est 25 portes, on va dire. Et sur les 25, t'en as 6 à remonter, 3 à gauche, 3 à droite. En canoë monoplace, ceux qui pagaient à gauche sont avantagés sur les remontées à gauche et ceux qui pagaient à droite sont avantagés sur les remontées à droite. Moi, sur le papier, en l'expliquant comme ça en 2 minutes, sur le papier, si j'arrive à être aussi fort à gauche qu'à droite, bah, je peux gagner, je pense, à peu près une seconde par stop, par remontée, sur mon mauvais côté. Ce qui fait 3 secondes par descente.
Ça, t'es le seul à faire ça?
Non, je suis pas le seul. Non, j'ai été un des premiers, voire le premier, j'ai été le premier homme à le faire en finale de coupe d'un championnat du monde pour une figure très spécifique, et ce qui m'a permis de gagner le championnat du monde d'ailleurs. Mais les filles, c'est les filles qui ont démocratisé ça. En fait, les filles, le canoë féminin qui a remplacé le biplace justement, bah, en fait, a été peuplé par des kayakistes. Ouais. Donc, qui ont appris à pagayer des deux côtés. Ouais. Et donc, du coup, quand elles sont mises dans un canoë, naturellement, elles sont mises à pagayer des deux côtés. Et on a observé des choses qui étaient assez jolies à voir, et surtout une facilité remarquable à faire certaines figures là où les hommes n'y arrivaient pas de leur mauvais côté. Et donc, petit à petit, ça rentrait dans les murs. Et moi, aujourd'hui, je le fais parce que j'y crois à fond, mais ça reste du concept. Pour le coup... Il faut que je fasse preuve par la démonstration que ça fait gagner 3 secondes. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est un gros projet. C'est ce qui me fait durer aussi. Je pense que, pour revenir à la question initiale, c'est qu'il faut se trouver des projets qui sont à la hauteur de ce que tu es capable de mettre tous les jours, en fait. Et tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, tous les jours, je me lève en me disant bah, j'ai une somme de travail monstrueuse à faire sur mon côté droit. Et c'est hyper intéressant. Et j'apprends tous les jours. Et je progresse de jour en jour. Et ça, c'est très, très agréable pour un athlète de bientôt 35 ans de se dire que je suis en train encore de progresser. Tu vois, c'est un truc que, pareil, pour le coup, je ne m'en rendais peut-être pas compte avant, mais c'est vital. C'est-à-dire que si tu me dis on refait une Olympiade de 4 ans que sur mon côté gauche, l'horreur, quoi. En fait, l'horreur, parce que le défi, il est hyper dur. Et la progression, c'est 3 mois d'entraînement pour voir ça de progrès, quoi. Parce que t'es tellement haut dans le niveau que pour progresser, c'est très dur. Et bah, c'est cette capacité à se réinventer, à se poser des questions, à se remettre en question. Je pense que c'est le secret d'une certaine longévité. Après, il n'y a pas que ça, mais il ne faut pas oublier que je suis un athlète. Il y a le rythme de vie, l'hygiène de vie, les fêtes, les excès, ce genre de choses... c'est très rare. Il y a le sommeil. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez, mais il faut dormir. C'est ce qui fait durer, quoi. Faut pas trop sacrifier ça. Je pense que le sommeil, c'est un truc, tu le rattrapes jamais vraiment, tu vois. Donc, faut y faire gaffe. T'as le droit de profiter de ta vie, mais ça, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est même, je pense, hein, tu vois, même
que j'ai... très jeune, hein.
Des très jeunes, et puis même quand, tu vois, j'observe certains entrepreneurs à succès. C'est une question qui revient souvent, ça, le sommeil. Tu vois. Si tu écoutes J'ai des générations de 8 sur self, Mathieu Stéphanie, il a toujours une question sur c'est quoi ton rythme de vie? Est-ce que tu dors 5 heures par nuit? Tu vois, tout ça. Elon Musk, il dit, moi, j'ai besoin de 7 heures de sommeil. C'est beaucoup. Moi, j'ai un de mes partenaires, un ami, Guy Puech, qui a créé une boîte dans une société de services en informatique, qui est un mentor pour moi sur plein de sujets. Il a un atout considérable dans la vie. Dort 4 heures, 3 heures par jour.
Ouais, c'est dingue. J'aimerais bien avoir ce talent-là. Ouais.
Et il pète le feu, c'est-à-dire qu'il est dur à suivre quand il est réveillé. Ça, c'est un atout considérable. Mais par contre, il faut respecter son rythme naturel. Si tu as besoin de 8 heures, il faut dormir 8 heures.
Ouais, bien sûr. Ouais, mais je suis d'accord. Moi, je me suis cramé les ailes à essayer de dormir peu alors que je suis un dormeur normal, on va dire. Mais tu vois, j'ai essayé de dormir 5 heures, 6 heures et tout, mais j'ai besoin de entre 7 et 8, tu vois, généralement, pour être bien, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est un truc sur lequel il n'y a pas assez de science, il n'y a pas assez de... On ne sait pas encore assez de choses, tu vois, sur le sommeil, sur comment ça se passe, comment on récupère, mais pourtant, c'est l'essentiel, quoi.
Enfin, ouais, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de la science pour prouver que dormir, c'est important.
Bien sûr, mais il y a peut-être des moyens de dormir mieux, tu vois.
Ah
dormir
oui.
Mieux, oui. Ou... Je pense que pour moi, le 21e siècle, il se passe là-dedans. Tu vois. Okay. C'est ma conviction. Bon, allez, toute dernière question, parce qu'il faut que je te libère. En tout cas, je me suis vraiment régalé jusqu'à maintenant. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir quelle est la femme et l'homme que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format où on peut parler comme ça. On n'a pas eu le temps de parler de golf. Bon, ça fera une occasion de se revoir.
En deux temps. J'ai découvert le golf cette année. Et c'est complètement addictif, ce truc. Je suis addict. Il y a plein de choses, plein de sports sur lesquels
je suis accro. Je comprends pas.
Il y a plein de sports sur lesquels je suis très intéressé. Il y a la boxe, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. La boxe anglaise, la Formule 1. Et la Formule 1,
Drive to Survive, provoquer un peu
pas forcément, non. En fait, je me suis rendu compte que les qualifs, le format de la compétition de la Formule 1, les qualifs correspondent à peu près à mon sport, en fait.
Okay.
Donc, tu progresses et puis à la fin, sur la Q3, tu fais le classement final. Et ça, c'est chez nous, c'est qualification, demi et finale. Et on pourrait assimiler ça à Q1, Q2, Q3, quoi. Et en fait, de les observer, comment ils progressent dans le truc sur le même parcours, à 1 minute 30 à fond où ils sont à la limite, c'est exactement ce que je fais. Et c'est pour ça que ça me passionne. Et le golf, c'est le geste.
C'est marrant, j'avais jamais fait l'analogie, mais.
Bon, après, il n'y a que moi qui le vois comme ça.
Non, mais maintenant, on est plusieurs. On est 10 000 à le faire.
Je m'ennuie un peu plus sur le Grand Prix, tu vois, mais sur les qualifs, je me régale. Et le golf, j'ai découvert ça. En fait, c'est juste l'aspect technique, le geste, et puis surtout l'aspect de la concentration que ça nécessite, qui est assez importante. Et sans vouloir faire, là pour le coup, faire de transfert avec mon sport, c'est juste un jeu qui me fait du bien. Ça me permet de me sortir de mon projet, de pagayer à droite tout le temps. Ça me permet de m'ouvrir l'esprit, de m'aérer, de faire une activité qui est pas trop nocive à mon corps, parce que la boxe, par exemple, c'est dangereux. La Formule 1, j'en ferai jamais. Mais tu vois, aller me foutre au tas en kart parce que j'aime le sport automobile, c'est pas une bonne idée pour un athlète de haut niveau.
C'est interdit en plus, non? Je pense.
Ouais, je pense que c'est pas terrible. Enfin, je le fais pas.
Vos assurances, voilà. Tout vos trucs. Mais...
Et le golf, c'est assez soft. Voilà. Et donc j'ai découvert ça et ça me plaît, quoi.
Avec des potes, c'est marrant. Y a de quoi chambrer. Ça marche. Bon, écoute.
Et donc, la dernière question, je te conseille?
Ouais, un homme et une femme. Parce que la règle de ce podcast, c'est de respecter la mixité sportive, la mixité des genres, et du coup, il faut citer un garçon et une fille.
Si tu as l'occasion, parce qu'elle est souvent en France pendant la période, je te conseille d'interviewer Myriam Jérusalemi, donc qui est une athlète française, qui aujourd'hui, elle représente l'Australie parce qu'elle est entraîneur de l'Australie, elle est entraîneur de sa fille Jessica Fox, mais c'est une
sacrée
grande
histoire.
Voilà, c'est une grande personnalité, moi qui m'a beaucoup influencé, que je cite souvent parce que elle a un esprit de, je crois qu'elle a un esprit de survivante comme moi. Voilà, elle veut pas se l'avouer, mais et un homme, c'est plus complexe. Si je devais te conseiller d'interviewer un athlète.
Ou ça peut être quelqu'un que tu connais pas, mais dont tu aimerais bien écouter l'histoire.
Ah ouais, ouais, ouais. Je réfléchis. C'est pas facile.
Ça t'engage à rien, tu sais, je vais pas.
Non, mais tant qu'à faire, essayer de trouver
quelqu'un. Je vais pas te faire signer un contrat, tu vois, ou un truc en disant putain.
Si t'arrives à interviewer Zidane.
C'est un rêve, tu vois. Il faut vivre ses rêves, ouais. Tu l'as dit toi-même.
Non, Karim Benzema, tu vois.
Et ben,
Karim Benzema, parce qu'en fait, si tu veux.
Mais après tout ça, moi j'ai envie. Je pense qu'après le foot, il arrêtera. Et...
Ouais, mais moi je pense que c'est un très grand professionnel. Et je l'observe. Et j'ai l'impression qu'il est très très fort. Qu'il n'est pas très très fort au foot. Qu'il est très très fort à côté. Et j'ai envie de le connaître, ce gars. Puis c'est génération 87 comme moi, tu vois. Donc...
Vas-y, ça sera le message d'accroche pour essayer de l'avoir. Trop cool. Écoute, merci infiniment, Denis. Je me suis régalé pendant cette grosse heure avec toi. C'est vraiment cool. Merci d'avoir partagé tout ça et d'avoir été aussi transparent et dégagé plein de bonnes choses. Je pense que, tu vois, ça parlera beaucoup aux jeunes athlètes qui nous écoutent, parce que j'ai beaucoup de gamins, tu vois, qui sont dans les filières sportives qui écoutent. Et je pense que ça les inspirera vraiment. Donc très chouette.
J'espère.
Un petit message pour eux pour la fin.
N'abandonnez pas vos rêves si on vous le dit.
Voilà. Salut Denis. À bientôt.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.